bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission mensuelle pour la dignité, une émission proposée et animée par Régis Coulanges. Bonjour Régis.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, au sommaire de cette émission.
Alors, au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur le concert qui a eu lieu à Digne d'Odile Frison, donc, et de ses musiciens. Et puis, nous allons parler d'une des 12 personnes en danger, Chu Oshun, qui nous a écrit une lettre. Et puis, nous parlerons de la grève de la faim d'une partie des prisonniers de Guantanamo. Ensuite, de l'action contre la peine de mort, avec un cas d'une personne qui vient d'être innocentée. Ensuite, par rapport au groupe de Digne, nous venons de recevoir un dossier d'intervention sur deux Tunisiens. Donc, je vous en parlerai. Et puis, je vous annoncerai donc, la foire aux livres à la fin mai, la foire aux livres d'Amnesty du groupe de Digne. Voilà, puis on terminera sur une bonne nouvelle, sur le traité sur le commerce des armes. Voilà le programme de cette émission.
Merci, on va écouter une chanson pour démarrer.
Voilà, donc on démarre par Barbara, puisque c'était la vedette du concert d'Odile, au profit d'Amnesty International.
Bien sûr, ce n'est pas la seule, ce n'est pas le bois de Vincennes. C'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann et Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance. Il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, l'onde grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen.
Et voilà la grande longue dame brune.
Voilà, donc en introduction, et puis c'est pour aussi remercier donc Odile Frison. Ses musiciens également, Alain Verne et Daniel Kotromanovic, ainsi qu'Hélène Gosselin, qui l'a accompagné au chœur pour son interprétation des chansons de Barbara, puis aussi la deuxième partie de ses propres chansons. Tout ça au profit d'Amnesty International. Donc le groupe dinois te remercie, et remercie bien tous les musiciens, ainsi que Solène R, qui est la fille d'une membre d'Amnesty, qui est sympathisante d'Amnesty et qui nous a interprété de beaux morceaux de piano.
De Yann Tiersen.
De Yann Tiersen, voilà. Donc, c'était une belle soirée. Tous les gens étaient ravis. 120 personnes se sont présentées à ce concert au centre René Char. C'est pas mal, hein, surtout que c'était une période, c'était un jeudi soir, c'était les vacances, donc c'était bien d'avoir rassemblé autant de monde. Donc ça nous a permis, nous, de présenter, de parler d'Amnesty International, de sa mission, de ses actions, et puis de fêter donc, les 40 ans d'action urgente. Donc présenter au public cette forme d'action qui est finalement assez simple et qui peut être faite par n'importe quelle personne désireuse d'aider Amnesty et d'aider des personnes en danger. Donc c'est même pas la peine d'être membre d'Amnesty pour pouvoir participer à ce réseau. Donc on a récolté donc 760 euros de dons puisque le concert était gratuit. Il y avait juste une participation pour ceux qui voulaient. Et tous les musiciens nous ont offert cette soirée. Hein. Donc c'est 760 euros pour Amnesty International. Et puis on a aussi 5 personnes qui étaient présentes, qui se sont inscrites, qui ont rejoint notre réseau d'action urgente. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça fait des forces militantes en plus et des lettres qui vont partir en plus pour toutes ces personnes en danger. Voilà, donc le bilan est tout à fait positif. On espère pouvoir
renouveler
cette expérience. Et, oui. Et puis c'était un peu la fête aussi, c'était bien quoi, parce que les actions urgentes, ça parle de sujets graves, mais c'est aussi beaucoup de fêtes parce qu'il y a beaucoup de résultats positifs, de gens qui sont libérés. Donc on voulait aussi que ce soit un peu sous le signe de la fête et ça l'a été avec de l'émotion et de très belles chansons, très bien interprétées. Merci encore à tous ces chanteurs et musiciens.
Merci, merci pour eux.
Voilà, alors on a reçu une lettre d'un prisonnier condamné à mort à la suite d'un procès inéquitable qui s'appelle Shuo Shung. Donc on a fait une action qui a débuté au marathon des signatures en décembre. C'est une action mondiale sur cette personne. Et rien que pour la France, on a récolté 105 000 signatures qu'on a apportées au bureau de Taïwan à Paris. Ils ont été très impressionnés par ce nombre important. Et en fait, des milliers de signatures sont venues aussi du monde entier. Et tout ça, bien sûr, ça s'est su à Taïwan. Et bien sûr, Shuo Shung en a été informé. Il a reçu également énormément de lettres de soutien du monde entier. Et je vais vous lire un petit peu des extraits de sa lettre qu'il a envoyée donc à Amnesty International Taïwan. Voilà. Donc c'est lui qui parle. Aujourd'hui, c'est un nouveau dimanche, jour d'éventuelles visites de la famille et des amis. Au petit matin, il fait encore froid dehors, de l'autre côté de la fenêtre de ma cellule. C'est calme et tranquille dans les dortoirs. Mon compagnon de chambrée souffle dans sa trompette comme s'il était toujours plongé dans un beau rêve. C'est formidable d'être jeune. Comme d'habitude, je me lève vers 5 heures. Je joins mes mains en direction du vide de l'autre côté de la fenêtre et souhaite le bonjour à mes amis. Ensuite, comme d'habitude, je prends une douche glacée. Mon Dieu, c'est tellement froid. Chaque jour, ma vie se déroule de la même façon. Dans l'après-midi du 23 janvier, j'ai reçu vos lettres avec vos bons vœux. Cela m'a fait énormément plaisir de les recevoir. Merci beaucoup pour votre sollicitude. J'ai aussi reçu récemment des lettres et des cartes de soutien envoyées par des amis du monde entier. Je suis très touché. Malheureusement, comme je ne comprends que le chinois, je n'ai pas pu lire les lettres écrites en anglais. J'ai donc demandé à mes amis bénévoles au sein de la Fondation pour la réforme de la justice de m'aider à organiser toutes ces lettres. Les étoiles et la lune dans le ciel jettent une lumière froide sur tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. La lune, qu'elle soit belle ou amère, me rappelle toujours mon foyer. Une nouvelle année est arrivée. Le nouvel an lunaire est tout proche. À chaque fois que les vacances arrivent, ma famille me manque encore plus. Depuis le jour où j'ai été accusé à tort, jusqu'à ce jour, 25 nouvel ans sont passés. Ces années ont vraiment été horribles et impitoyables. La vie est remplie de joie et de tristesse et chaque jour qui passe est rempli d'espoir et de confiance, malgré tous les coups durs. Je n'oublie jamais d'avoir confiance et de l'espoir, chose merveilleuse. Je ne suis qu'un rustre né dans un village de paysans dans le comté de Zunan et doté d'une inflexible et tenace détermination. Au cours de ces 25 dernières années, le système judiciaire m'a passé à tabac bien des fois. J'apprécie la lutte contre l'adversité qu'implique la défense et l'équité, la défense de l'équité et de l'impartialité du système judiciaire, parce que sans ce dur combat à mener, je n'aurais jamais pu survivre à ces dernières années. Même si on ne gagne pas toujours, quand on donne tout ce qu'on a, tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas perdu. Alors je me battrai jusqu'au bout. Récemment, au cours des 3 dernières années, de nombreux amis ont exprimé leur inquiétude à mon sujet. Beaucoup de gens sont entrés dans ma vie, mais ils en sortent vite aussi. Certains sont devenus de très proches amis, d'autres se sont juste arrêtés brièvement, mais ils resteront tous à jamais dans mon cœur. L'amour sincère que chacun de ces amis m'a offert me donne un peu de force et réchauffe mon cœur. Je n'avais jamais connu cela avant dans ma vie. Alors j'apprécie réellement cette bénédiction. J'espère que d'autres amis pourront défendre l'équité et l'impartialité du système judiciaire. Nous allons ensemble faire avancer l'histoire en nous mettant au service d'une cause commune. Merci à tous. En cette période hivernale, prenez tous bien soin de votre santé et souhaitez une bonne année à votre président. Il parle du président d'Amnesty Taïwan. C'est mon héros. Je voudrais tout particulièrement que vous souhaitiez de ma part à tous les membres d'Amnesty International une bonne année et que vous les remerciez en mon nom pour leur soutien et leur sollicitude. Merci pour votre travail. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Puissent tous vos souhaits se réaliser. Voilà, donc cette lettre très chargée d'émotions qui nous remercie. Voilà, on lui écrit comme on peut, on écrit en français, en anglais. Il ne comprend pas, mais il sait que c'est du soutien. Et il faudra traduire après, mais même dans une langue qu'il ne comprend pas, ça l'aide à tenir. Voilà, donc je tenais à lire cette lettre qu'il a envoyée à Amnesty International Taïwan. Voilà, on va peut-être maintenant écouter Julos Bocarn dans son nouveau disque. Une poésie, une chanson qui parle d'amour comme dans la lettre de Shu Oshun.
À Califourchon, sur un balbuzard fluviatile d'un mètre septante d'envergure, j'ai survolé les pagodes de Wahange un jour d'hiver. Jamais assez de caresses, de doux baisers sur cette terre. J'aimerais ne partager que tendresse, joie, sérénité, ma vie entière. Ni toi ni moi ne sommes faits pour la guerre. Nous sommes faits pour marcher résolument vers la lumière. Je ne veux plus entre toi et moi une quelconque intifada. Je ne veux plus te parler sabre. Je veux la grande paix sous les arbres. Il n'y aura jamais assez de caresses, de doux baisers sur cette terre. J'aimerais ne partager que tendresse, joie, sérénité, ma vie entière. Je veux respirer l'air du matin, tout frais, tout neuf, qui fait du bien. Je veux remplir mes poumons d'air pur. Je veux de l'amour et pas des murs. De janvier jusqu'en décembre, je ne veux naviguer que tendre. Je ne veux plus la moindre fusée, de longue ou de moyenne portée. Je veux un ciel bleu dégagé, que le soleil puisse y jouer. Jamais assez de caresses, de doux baisers sur cette terre. J'aimerais ne partager que tendresse, joie, sérénité, ma vie entière. Ni toi ni moi ne sommes faits pour la guerre. Nous sommes faits pour marcher résolument vers la lumière. Je ne veux plus entre toi et moi une quelconque intifada. Je ne veux plus te parler sabre. Je veux la grande paix sous les arbres.
Magnifique, les textes de Jules Bocarn.
Voilà, oui, c'est... ça colle bien aussi à Amnesty International et à son désir de paix sous les arbres. Voilà. Il y a un endroit où, bon, c'est pas la paix, hein, et là, c'est à Guantanamo, cette prison secrète de... américaine où il y a des détentions illimitées. Des détenus qui ne sont pas condamnés, mais qui sont là, enfermés. Donc, Barack Obama avait promis de la fermer lors de son premier mandat. C'est son deuxième mandat et Guantanamo est toujours là. Et on est très inquiet parce que la moitié des détenus observent une grève de la faim. 84 détenus sur 166... qui reste à la base navale américaine de Guantanamo, ont entamé une grève de la faim début février en réaction à ce qu'ils estiment être des fouilles abusives dans leurs cellules et une détérioration de leurs conditions de vie. La situation actuelle à Guantanamo rappelle une nouvelle fois le manquement honteux des États-Unis à leur obligation consistant à régler les cas des détenus. Il ne serait pas surprenant que ces détenus pensent que le gouvernement américain les a abandonnés. Il n'est pas non plus surprenant que le fait que le centre de Guantanamo ne soit toujours pas fermé cause d'énormes souffrances à ces personnes et à leurs familles. C'est ce que disait Rob Free, qui est le spécialiste des États-Unis à Amnesty International. Selon nos informations, les autorités militaires ont déclaré que 16 détenus grévistes de la faim sont nourris par tube et que 5 ont été hospitalisés. Cette façon de nourrir de force les détenus nous inquiète par rapport à l'éthique médicale, à la notion de consentement éclairé, à l'autonomie des détenus, au principe de confidentialité, au traitement réservé aux détenus. L'avocat du yéménite Samir Najal Hassan Mokbel, qui a entamé une grève de la faim en février, a déclaré à un journaliste de New York Times que son client lui avait dit « Je n'oublierai jamais la première fois qu'ils m'ont enfoncé la sonde d'alimentation dans le nez. Il est impossible de décrire à quel point c'est douloureux d'être gavé de cette manière. » Donc, on pense que ce processus d'alimentation artificielle est obligatoire et est assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. S'il est intentionnellement et sciemment effectué d'une manière occasionnant des douleurs ou des souffrances inutiles. Donc, c'est peut-être aussi une forme de torture, quoi. Le 22 mars, Amnesty International a écrit à Charles Hagel, le secrétaire américain à la Défense, pour lui faire part de ses préoccupations quant à la santé et au bien-être des détenus et pour demander au gouvernement américain de travailler de toute urgence avec le Congrès afin de redonner une priorité élevée à la fermeture de cet établissement et au règlement du cas des détenus. Nous n'avons toujours pas, à ce jour, reçu de réponse. Il est grand temps que les trois pouvoirs de l'État respectent les droits humains et se saisissent en urgence de cette situation. Il faut en finir avec les placements en détention pour une durée indéterminée. Les détenus que le gouvernement n'a aucune intention d'inculper d'infractions prévues par la loi doivent être libérés sans plus de détails. Voilà, donc c'est un combat que nous continuons à mener pour la, la fermeture de Guantanamo et des procès équitables pour tous, et puis la libération de ceux qui n'ont rien fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, donc on va rester aux États-Unis, puisqu'on lutte aussi contre la peine de mort. Et on a reçu un témoignage de Damon Thibodeau. C'est un citoyen américain qui a aujourd'hui 38 ans, qui avait été déclaré coupable de meurtre de Crystal Champagne, une cousine par alliance de 14 ans, et il avait été condamné à mort en 1997. Il a toujours clamé son innocence, et après avoir passé 15 ans derrière les barreaux, il est finalement ressorti du pénitencier d'État de Louisiane d'Angola, l'une des prisons les plus dures, les plus fermées des États-Unis, en homme libre. Voici son histoire. L'affaire Thibodeau est loin d'être un cas isolé. L'erreur est l'une des caractéristiques du système d'application de la peine capitale aux États-Unis. Le nombre d'affaires dans lesquelles des personnes condamnées à mort ont ensuite été innocentées, plus de 140 en 40 ans, devrait donner à réfléchir même aux plus ardents défenseurs de la peine capitale. Parce qu'on ne compte pas là-dessus les innocents qui ont été exécutés. En garde à vue à la première heure, le 21 juillet 1996, après une interrogation qui a duré près de 9 heures, le jeune homme, alors âgé de 19 ans, a avoué le meurtre de sa cousine de 14 ans, après avoir nié à maintes reprises avoir quelque chose à voir avec le crime. Quelques heures plus tard, il a expliqué à son avocat qu'il était complètement épuisé et avait fait de faux aveux pour en finir avec l'interrogatoire. Cependant, fort de ses aveux, qui pourtant englobait des détails inexacts sur le crime, l'accusation a obtenu une condamnation et le jury s'est prononcé à l'unanimité contre la peine de mort. Pour la peine de mort, pardon. La suite de l'histoire, elle est terrible. Il a passé 15 ans à l'isolement dans le quartier des condamnés à mort, à la prison de sécurité maximale d'Angola. À Angola, vous êtes enfermé dans une cellule 23 heures sur 24, sans aucun contact avec personne. On vous amène tous vos repas. Vous pouvez sortir une heure par jour, trois fois par semaine dans la cour. Ou vous restez à l'intérieur et vous avez une heure par jour dans le couloir. Durant cette heure-là, vous devez vous doucher, passer vos coups de téléphone, faire des exercices ou d'autres choses encore. Voilà ce qu'a raconté à Amnesty International Damon Thibodeau. Dans le quartier des condamnés à mort, il fait une chaleur insupportable en été. Il fait si chaud que vous restez en caleçon toute la journée et vous transpirez, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Celui ou celle qui affirme que l'on vit confortablement dans le couloir de la mort n'y a de toute évidence jamais mis les pieds. C'est l'endroit le plus inconfortable qui soit. Ma famille est venue me rendre visite 4 fois en 15 ans. Pour certaines familles, ce n'est pas simple de faire ce déplacement jusqu'à Angola, le site étant très éloigné de la ville. Le pire, lorsqu'on est condamné à mort, c'est de savoir que l'État a l'intention de vous tuer. Heureusement, je n'ai pas été confronté à une date d'exécution. Le fait que l'État veuille vous supprimer est quelque chose que vous devez arriver à apprivoiser par vous-même. En fait, chacun le gère à sa façon. Aujourd'hui libre, Damon Thibodeau assure qu'il a toujours été persuadé qu'il sortirait un jour de la prison d'Angola, mais qu'il ne savait pas quand. Aspect inhabituel de son affaire, en 2007, le bureau du procureur du district, face aux éléments prouvant l'erreur judiciaire, a accepté de mener de nouvelles investigations conjointement avec les avocats de la défense. Je savais que j'allais être disculpé, sans doute 2 ou 3 ans avant que cela ne se produise. Le procureur de district voulait être absolument certain qu'il n'allait pas remettre en liberté une personne dangereuse, ce que je peux comprendre. Ce n'est pas évident de libérer quelqu'un que vous avez poursuivi en justice et placé dans le quartier des condamnés à mort. Dans le cadre des nouvelles investigations, le procureur a consulté un expert sur les aveux controversés, qui a conclu que la déclaration de Damon Thibodeau n'était pas cohérente. Le procureur a alors annoncé « Les principaux éléments de preuve dans cette affaire, à savoir les aveux, ne sont pas fiables. Sans cet élément décisif, la condamnation ne tient plus et dans l'intérêt de la justice doit par conséquent être annulée. » Sur une ordonnance, un juge a ordonné la libération de Damon Thibodeau. Des examens médico-légaux n'avaient pas permis d'établir un lien physique quelconque entre l'accusé et le crime et les tests ADN pratiqués sur un échantillon de sang retrouvé sur le fil de fer qui avait servi à étrangler la victime, ont révélé l'ADN d'un homme qui n'est pas Damon Thibodeau. Plus de 300, selon l'organisation The Innocence Project, plus de 300 prisonniers à travers les États-Unis, dont 18 qui se trouvaient dans le couloir de la mort, ont été disculpés au cours de ces dernières décennies. l'ADN ayant joué un rôle majeur dans l'établissement de leur innocence. Cependant, dans la plupart des crimes, il n'y a pas de preuve ADN susceptible d'être soumise à des tests. Aussi, de nombreux condamnés ne peuvent-ils pas s'appuyer sur de tels éléments pour prouver leur innocence. Voilà, donc Damon Thibodeau reconstruit aujourd'hui sa vie dans le Minnesota. Il a un appartement et un emploi à mi-temps. Il n'a reçu aucune indemnisation de l'État et tente de se réadapter à la vie en liberté dans un monde qui a changé. Pendant les 15 années qu'il a passées derrière les barreaux, il tente également de renouer les liens avec son fils, aujourd'hui âgé de 21 ans. Nous avions la télévision et des journaux, dont j'ai vu l'évolution, l'ère numérique, mais je dois arriver à rattraper tout mon retard. Même maintenant, cela reste un défi. Je découvre un domaine dont je ne connais rien. Comment faire marcher mon iPod ou mon ordinateur? Peut-être vais-je devoir appeler quelqu'un pour m'expliquer. Voilà, comme de nombreux prisonniers, après de longues peines, il est un peu perdu. Mais il est libre, voilà, 15 ans pour rien, 15 ans de vie perdue, à la suite d'un procès inique, alors qu'on savait bien que les aveux ne correspondaient pas à la réalité. Voilà la réalité donc de la peine de mort aux États-Unis et dans le monde, dans les pays où elle demeure. Voilà, un risque énorme de supprimer des innocents. Voilà, c'est pour ça qu'Amnesty International, et pour d'autres raisons, pour ça que nous luttons pour l'abolition de cette torture suprême. Voilà. Alors, une bonne nouvelle dans cette action contre la peine de mort, c'est le 18e État des États-Unis, le Maryland, vient d'abolir la peine de mort. Oh. C'est le 18e État qui l'a aboli. Donc ça avance, petit à petit, même aux États-Unis. Voilà, alors, on va passer maintenant une chanson du dernier CD d'Higelin.
Jacques Higelin. Voilà.
Seul le retour des beaux jours et de la saison des amours champêtre, l'alouette et l'hirondelle, le merle et les moineaux chantent à tue-tête, les traits tirés devant la glace. Besoin d'espace et d'air pur, j'ai tout plaqué et pris la clé des champs pour m'évader dans le grand bleu d'azur. Sous l'étendard bleu du ciel, mon âme ouvre ses ailes au baiser du vent. Les cerisiers sont en fleurs, je sens battre mon cœur à l'appel du printemps. Seul, je prends la route chat, sans tous les doutes qui s'attaquent à ma voix. La tête dans les nuages, l'esprit libre et volage, j'entends battre mon cœur. J'adore me balader seul dans les châteaux hantés par des poètes, le corps secoué de frissons en leur chantant tout ce qui me passe par la tête. Loin de la folie, étranger à toute illusion, je trace mon chemin, baladin vagabond, et n'y suis pour rien, ni pour personne. Seul, sans rien qui fâche, libre et sans attache, que la vie qui s'en vient. Un sourire aux lèvres, le cœur plein de rêves, et qui m'attend, et qui m'entend, et qui me tend.
Ça fait toujours du bien d'entendre Jacques Higelin.
Voilà, oui. Un CD plein d'espérance, de joie. Printanier, je vous le conseille. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler d'un dossier qu'on vient de recevoir. Un dossier d'intervention qui a été confié au groupe de Digne, puis à d'autres groupes, bien sûr. Hein. Alors, c'est un dossier qui concerne deux blogueurs tunisiens, Jaber Mejri et Ghazi Beji, qui viennent tous les deux d'être condamnés à 7 ans et demi de prison et une amende de 1200 dinars par le tribunal de Madia dans l'est de la Tunisie pour des commentaires publiés sur Facebook jugés insultants pour l'islam et les musulmans. Il s'agissait d'articles et de caricatures du prophète Mohammed. Voilà, alors l'un a été condamné et se retrouve en prison. L'autre est condamné également pour la même peine, mais il a pu se rendre en France et donc il a été condamné par contumace. Et donc il est aujourd'hui en France et il demande l'asile. Voilà. Donc vous savez qu'on a été, on a suivi de très près ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Mmh. Et on s'est réjoui donc de cette volonté de ces peuples de se libérer de la terreur dans laquelle ils se trouvaient de par des gouvernements très forts, voire des dictatures. Mais on suit aussi également de très près l'évolution, ce que deviennent ces révolutions. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse au cas de ces personnes qui sont manifestement des prisonniers d'opinion, hein, puisqu'ils ont été condamnés pour avoir exprimé leur opinion sur Facebook. Voilà, donc le 28 mars 2012, en vertu de l'article 121 et du code pénal, ainsi que de l'article 86 du code des télécommunications, Jaber Majri et son ami Ghazi Bej ont été condamnés à 7 ans et demi de prison par le tribunal de Média dans l'est de la Tunisie pour des commentaires jugés insultants pour l'islam et les musulmans. Jaber Majri purge sa peine à la prison de Média après avoir été poursuivi et reconnu coupable pour ses publications. Ghazi Beji a été poursuivi et condamné par contumace pour ses écrits sur Internet, parmi lesquels un manuscrit qu'il avait écrit appelé « L'illusion de l'islam » dans lequel il témoignait de son athéisme. Majer Majri a été arrêté le 5 mars 2012. Ce sont deux avocats de la ville de Média qui, ayant vu sur Internet les écrits et les caricatures du prophète, ont porté plainte contre lui, selon les documents du tribunal consultés par Amnesty. Et pendant son interrogatoire, Jaber Majri a déclaré que les images qu'il avait mises sur Internet appartenaient à un de ses amis, Ghazi Beji, un athée autoproclamé. En conséquence, Ghazi Beji a été aussi poursuivi pour ses écrits sur Internet et son manuscrit « L'illusion de l'islam ». Voilà, donc les avocats de ces deux hommes ont fait appel de la décision. Et le 23 juin 2012, la cour d'appel de Monastir a confirmé le verdict. Les avocats ont alors porté le cas devant la cour de cassation qui, à ce jour, n'a toujours pas rendu sa décision. Amnesty International avait pu facilement entrer en relation avec l'avocat de Jaber Majri. Cela a été plus difficile de s'entretenir avec la famille, qui a tardé à donner son consentement pour qu'Amnesty s'occupe de son fils. Nous allons le soutenir, demander sa libération, puisque manifestement, c'est un prisonnier d'opinion qui a été condamné... avec des articles qui datent de l'ère de Ben Ali, hein, et qui n'ont pas été abrogés, voilà, troubles à l'ordre public et à la moralité publique. C'est des articles qui avaient déjà été utilisés pour réduire au silence les journalistes, les blogueurs et les artistes. Voilà, donc ça montre que les autorités tunisiennes ne tiennent pas vraiment à respecter la liberté d'expression. Au niveau international, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a examiné la situation des droits humains en Tunisie lors de sa 13e section de l'examen périodique universel en mai 2012. Et les autorités tunisiennes ont rejeté des recommandations importantes qu'il appelait entre autres à dépénaliser la diffamation, ce qui a jeté des doutes sur leur volonté de respecter la liberté d'expression. Donc voilà, on continue à suivre l'évolution de ces révolutions et chaque fois, autant on a soutenu au départ, autant on a la liberté de dire que les droits humains ne sont pas respectés et c'est en contradiction à ce que voulait le peuple au départ. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va suivre. On a notre réunion tout à l'heure, on va faire des photos de soutien. Qu'on va envoyer sur un blog. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre action d'Amnesty International, le groupe de Digne. c'est notre traditionnelle foire aux livres. Elle va se tenir donc au mois de mai, le vendredi 24 mai de 14h à 19h30 et le samedi 25 mai toute la journée de 9h à 18h dans la salle de l'Atrium. Donc nous avons à cette occasion des milliers de livres à proposer au public pour des prix modiques. Tous ces livres nous ont été donnés par des sympathisants d'Amnesty tout au long de l'année.
Ça fait quand même pas déjà un an, la bourse aux livres, la dernière.
En fait, on en fait deux par an.
Ah, voilà. Il me semblait bien quand même que c'était pas si vieux que ça.
En fait, on en fait une au printemps et une à l'automne. Mm-hmm. Donc, les dates varient un petit peu parce que c'est en fonction de la salle. Donc, on réserve la salle deux fois par de l'Atrium à Digne-les-Bains, deux fois par an. Et on a besoin d'en faire deux parce que en fait, on nous donne énormément de livres.
Il faut tout épuiser.
Et c'est difficile de stocker, donc il faut régulièrement en vendre. Et puis, vous savez que comme Amnesty International ne demande aucune subvention d'aucun État, ni aucune entreprise pour garder son indépendance, et que c'est une très grosse organisation qui emploie des chercheurs, qui a énormément de salariés de par le monde. Mmh. Il y a beaucoup plus de bénévoles, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de salariés. On a un besoin de financement important. Et c'est un des moyens, la foire aux livres, qui est sympathique en plus, parce que bon, les gens aiment bien. C'est rentré dans les mœurs à Digne. Hein, ça fait partie des festivités que les gens attendent. Et c'est sympathique. Et puis, bien sûr, il y a cette recherche de fonds. Là. C'est une opération qui est une recherche de fonds. Mais en même temps, bon, ça fait circuler les livres. C'est bien pour la lecture en général. Et puis, on a toujours, bien sûr, une table de signature. Hein. Nous allons mettre ce jour-là, ces deux jours, au moins trois pétitions. Hein. Une pétition sur la Libye, une pétition sur l'Iran et une pétition sur les armes, sur le contrôle des armes adressées à la France. Voilà. Donc, je vous rappelle les dates. 24-25 mai 2013, c'est un vendredi après-midi, un samedi toute la journée, à l'Atrium à Digne-les-Bains. Voilà, si vous avez des livres à donner, vous pouvez les apporter ce jour-là. Il y a des gens comme ça qui nous apportent des livres et qui en reprennent.
Ben oui.
Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Bon, c'est des milliers de livres. Je sais que c'est beaucoup de travail à vous voir comme des petites fourmis pour la préparation. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et est-ce que donc c'est sur deux jours ? Est-ce que vous chiffrez à peu près au niveau vente de livres, vous notez, j'imagine comment ça se passe ?
On note, oui, les montants qu'on reçoit. Hein.
Oui. Mm-hmm.
Vous dire exactement combien de livres on vend, non, on ne note pas le nombre exact, mm-hmm. mais c'est des centaines.
Hein. Et une moyenne de...
Et en moyenne, on fait entre 1 800 et 2 000 euros
c'est bien.
À chaque fois au livre. Alors, c'est bien parce que, bon, on paye, on a une cotisation à payer à la section française en tant que groupe. Et puis, si on a un peu plus d'argent, on donne aussi, on fait des dons à Amnesty International directement. Hein. Tout va de toute façon à Amnesty International. Mmh. Voilà, et puis on a beaucoup de frais au niveau timbre, hein, puisque on fait signer des pétitions, on fait signer des lettres et tout ça, il faut l'envoyer. Hein. Mmh. Donc, on a aussi une grosse dépense de...
Il n'y a pas moyen avec la poste d'avoir... d'affranchir...
Ah non, on n'a pas de prix préférentiel.
Non. Ah, quand
même. Si, à Manosque, les journées de la correspondance, le groupe de Manosque fait écrire le public, fait envoyer des lettres. Et ce jour-là, la poste a franchi gratuitement les envois.
Donc c'est possible.
Ça se fait correspondances.
Il faudrait solliciter le directeur de poste. Enfin, je sais pas.
Non, c'est vrai que la plupart des envois que nous faisons vont vers le monde entier. Donc le tarif d'un courrier, c'est pas loin d'un euro. Quoi, hein. Si on compte l'enveloppe, tout ça, ça fait un euro. Donc à chaque euro, c'est une lettre qui peut partir. Quoi.
Oui.
Donc voilà, c'est important de financer. Et puis bon, il y a ça, mais ce qui coûte aussi très cher, c'est la recherche, hein, la recherche et l'action, quoi, hein, qui suit la recherche, puisque ça fonctionne toujours comme ça. On envoie des chercheurs, on fait des rapports, donc il faut aussi éditer des rapports qui sont, croyez-moi, très lus attentivement par tous les gouvernements concernés, hein, parce qu'ils savent que ce qu'on raconte, c'est la vérité, et qu'ils ne peuvent pas dire que c'est faux, quoi. Et donc, y a ces rapports, et puis ensuite, il y a toutes les actions, et tout ça, ça coûte de l'argent, et voilà, pour rester indépendant, on ne demande rien à aucun gouvernement, aucune entreprise internationale. Et donc, on finance grâce à ce genre d'action et puis aussi à tous nos donateurs. Voilà. Donc, ce jour-là, on aura trois pétitions. Alors, vous savez qu'on a eu une bonne nouvelle. Là, c'est le traité international sur le commerce des armes classiques, le TCA, qui vient d'être signé à l'ONU après de longues années de campagne. Cette campagne avait été initiée par un certain nombre de prix Nobel de la paix. Et vous savez qu'Amnesty est aussi prix Nobel de la paix, puisqu'on avait eu le prix Nobel de la paix en 1977. Et donc, on s'était bien sûr associé à cet appel pour qu'il y ait un vrai contrôle sur le commerce des armes afin de ne plus vendre, qu'aucun pays ne puisse vendre des armes qui se retournent contre leur population, par exemple, qui servent à commettre des atrocités. Hein. Et malgré une opposition farouche de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Syrie, qui ont essayé de bloquer ce traité jusqu'à la fin, finalement, il a été adopté et c'est une grande victoire pour tous les gens qui ont participé, qui ont fait pression, la société civile, hein, qui a fait pression pour que ce traité arrive. Et puis aussi pour tous les pays, je pense notamment aux pays africains qui désiraient un traité parce que dans ce continent, les armes circulent et dans d'autres aussi, hein, mais font des dégâts abominables sur les civils, notamment les femmes et les enfants, quoi. Voilà, donc pour nous, c'est une grande victoire, mais c'est pas fini, hein, le combat continue, parce qu'une fois que le traité est adopté, il faut qu'il soit signé et ratifié par un certain nombre de pays avant de rentrer en application. On n'a pas obtenu non plus tout ce qu'on avait, tout ce qu'on voulait, hein, notamment les munitions qui n'ont pas été intégrées dans le dispositif. Et donc, comme ce traité peut être amendé, c'est une base solide, hein, sur laquelle il sera possible de bâtir un système international visant à limiter l'approvisionnement en armes des auteurs d'atrocités en temps de guerre comme en temps de paix. Hein. Donc, voilà. Alors, on a déjà une première pétition qui pour la France. Donc, c'est une pétition dans laquelle, bien sûr, on demande à la France de signer et ratifier rapidement, le plus vite possible, donc ce TCA. Il va être ouvert à la signature le 3 juin 2013. Voilà, et donc c'est un traité qui vise entre autres à promouvoir la transparence et l'action responsable des États parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre les États, entre tous les États qui seront partis au traité. Voilà. Donc on écrit là à Madame Patricia Adam, qui est présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Et on lui dit que bon, la Commission de la Défense nationale doit veiller au contrôle de l'action de l'exécutif en matière d'exportation d'armement. Il est en son devoir d'œuvrer pour que la France respecte les standards les plus élevés, notamment vis-à-vis du respect des droits humains en matière de transfert d'armes. Pour s'en assurer, la Commission de la Défense nationale doit requérir du gouvernement la plus grande transparence possible. Voilà. Donc il y aura cette pétition le jour de la Foire aux Livres, qu'on fera signer au plus grand nombre de personnes, hein. Donc, pour exiger de la France la transparence sur les ventes d'armes, et puis qu'elle signe et qu'elle ratifie le traité, auquel il faut reconnaître qu'elle a contribué à voir le jour. Hein, elle a été une ardente défenseuse du traité. Et donc, maintenant, il faut le signer, le ratifier. Hein. Voilà, donc, on a cette pétition. Et puis, on mettra aussi deux autres pétitions Une qui concerne les membres du Centre pour les défenseurs des droits humains en Iran. Ces membres sont emprisonnés pour avoir défendu les prisonniers politiques. Et ce centre de défense des droits humains a été fermé par les autorités en 2008. Les membres font l'objet du harcèlement permanent, arrestation, poursuite, interdiction d'exercer leur profession, interdiction de sortie du territoire. Voilà, donc il y en a qui ont été condamnés à de longues peines, injustement, hein, puisque ce sont des défenseurs des droits humains. Donc on aura une pétition qui demande leur libération immédiate, l'accès sans restriction pour ceux qui sont emprisonnés, à leurs familles, aux avocats, de leur choix, aux soins médicaux, la réouverture du Centre pour les défenseurs des droits humains, son enregistrement légal, et puis mettre fin au harcèlement et intimidation à l'encontre de tous ces défenseurs des droits humains en Iran. Voilà, on mettra une troisième pétition qui concerne la Libye et la protection des Tawarga. Alors, je vous rappelle un peu son histoire. Donc, en août 2011, la population de Tawarga a été chassée de sa ville par des combattants organisés en milice. Tawarga est aujourd'hui une ville fantôme et dévastée. Ses habitants vivent depuis dans des camps de déplacés, toujours harcelés par les milices et victimes de discrimination. En février 2013, une réunion gouvernementale sur la question des personnes déplacées a débouché sur une liste de recommandations, notamment une loi sur la justice sociale, l'amélioration des efforts de réconciliation, l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et l'assurance qu'elles sont en mesure de retourner dans leur foyer. Donc il faut que ces recommandations entrent en pratique. Les dirigeants de cette communauté Tawarga ne peuvent plus supporter d'attendre et ils veulent quitter la vingtaine de camps dans lesquels ils sont contraints de survivre, notamment à Tripoli et à Benghazi. Et ils ont le désir de retourner chez eux en juin de cette année. Donc, par cette pétition, nous demandons de veiller à ce que toutes ces personnes déplacées de force puissent rentrer chez elles, que leur sécurité soit assurée et qu'elles reçoivent des réparations adéquates. Voilà, donc nous aurons ces actions lors de notre foire aux livres. Voilà, alors je vous avais... donc, cette bonne nouvelle, c'est le traité sur le commerce des armes. Donc, on a eu, je reviens au début de l'émission, le concert d'Odile Frison et de ses musiciens, ainsi que l'intervention au piano de Solenaire à l'occasion des 40 ans d'Amnesty International et des actions urgentes d'Amnesty International. Donc, Odile Frison a chanté 10 chansons de Barbara avec beaucoup d'émotion. Et avant de passer à une dernière chanson de Barbara, je voulais dire à Odile qui est en face de moi, je pense qu'elle ne le sait pas, Barbara, dans son testament, a légué 10% de ses droits d'auteur à Amnesty International.
Ah ben, je suis vraiment ravie de l'apprendre.
Donc, c'était avec d'autres artistes une grande dame défenseuse des droits humains et qui soutient l'action d'Amnesty.
Merci de cette nouvelle. Je promets que je léguerai aussi dès que je serai célèbre beaucoup d'argent à Amnesty. On va écouter.
Voilà.
Perlimpinpin.
Allez, Perlimpinpin.
Merci, Régis.
Comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? T'en est assez de vos violences, hein? D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui pourriez-vous? Je vous prie de faire silence, hein? Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit
entre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien. Et pour une rose entrouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, mais tout donner avec ivresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder de toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant des fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui, comment, contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Contre personne et contre rien, contre personne et contre rien, et pour toutes les fleurs ouvertes, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne, et pour vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, penser de toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, aimer, laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Vivre, vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Rien que la tendresse pour toute richesse. Aimer, aimer avec ivresse. Et ivresse avec tendresse. Ivresse. Pour toute richesse, donner, donner avec ivresse.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. Enfin, merci Régis d'avoir donné toutes ces informations sur les actualités d'Amnesty International. Et on rappelle bien sûr la foire aux livres qui va avoir lieu très bientôt, vendredi après-midi le 24 mai et le 25 samedi, toute la journée.
Voilà, et donc je vous ai donné un certain nombre d'informations. Sachez que vous pouvez aller sur Internet, sur le site d'Amnesty, pour signer des pétitions en ligne. Et puis, vous avez aussi d'autres informations, bien sûr, parce que je n'ai pas tout dit. Hein. Vous avez aussi à la médiathèque de Digne la chronique, puisque nous avons abonné la médiathèque à notre journal. Donc, sur la chronique d'Amnesty, ce qui est une revue mensuelle, vous avez aussi des informations sur la situation des droits humains. Et voilà, nous avons, je vais tout à l'heure aller à la réunion du groupe de Digne. Et nous allons donc préparer cette foire aux livres. Et puis, voilà, ben, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, nous donner un coup de main, ça peut être 5 minutes par mois, 1 heure par mois ou plus. N'hésitez pas, sur le site d'Amnesty, vous pouvez avoir les contacts locaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre. Plus on sera nombreux et plus on arrivera à défendre les droits humains partout et pour tous. Je vous remercie.
Régis, merci. On se retrouve le mois prochain, au mois de mai.
Voilà. Fin
oui.
mai, oui.
Oui, fin mai, voilà.
Fin mai, dernier lundi le du dernier mois de mai.
Lundi du mois de mai, merci Régis. Voilà. À partir de 16h30 pour ce rendez-vous, pour cette émission mensuelle, donc pour la dignité avec Régis Coulanges, conseiller national pour la région PACA d'Amnesty International. Merci beaucoup Régis et bonne soirée à tous. On va se quitter avec Jacques Higelin. J'en profite que tu as amené son dernier CD. Je mets au hasard, ce sera certainement beau.
du lit de l'eau de la rivière, bercé par le murmure de l'eau de là, de l'infiniment bleu.